le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite votre journal. Il est 6h.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Moi, Joseph Robinette Biden, je jure solennellement que j'accomplirai loyalement les fonctions de président des États-Unis. Joe Biden a donc prêté serment hier avant d'accéder à la Maison Blanche, un mandat qu'il place sous le signe de l'unité. Si Donald Trump a déserté la cérémonie d'investiture, trois anciens présidents étaient bien là. Ils ont fait front commun avec Joe Biden. À la une également, Emmanuel Macron en visite à l'université Paris-Saclay aujourd'hui pour parler recherche quantique, mais aussi mal-être étudiant, alors que la crise sanitaire a un lourd impact sur la jeunesse. Dans ce journal, une proposition de loi pour criminaliser les viols sur mineurs examinée au Sénat tout à l'heure. La demande des derniers membres du commando Erignac pour être transférés dans une prison corse rejetée. Et puis Mein Kampf, le manifeste d'Hitler, sera réédité en français cette année. L'ouvrage sera agrémenté d'une large partie critique.
À suivre la page des sports avec Jérôme Lacroix et mon invité inattendu qui vient partager avec nous sa passion pour la littérature. Lui que vous connaissez plutôt comme chanteur populaire et qui a grandi dans les quartiers nord de Toulouse. Passion pas forcément naturelle, vous verrez. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Joe Biden est donc officiellement devenu le 46e président des États-Unis après une cérémonie d'investiture inédite à huis clos mais ponctuée de discours forts. Après avoir prêté serment, le nouveau président a une nouvelle fois appelé au rassemblement du peuple américain, estimant que c'était le seul moyen de réussite. Écoutez.
Je suis honoré de l'espoir que vous avez placé en moi. Mais à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, laissez-moi vous dire ceci. Attendez un peu de voir ce que j'ai à cœur de faire. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, alors soit. C'est la démocratie. C'est ça, l'Amérique. Le droit d'être pacifiquement en désaccord. Dans le respect de notre République, qui est peut-être la plus grande force de cette nation. Mais écoutez-moi bien. Ces désaccords ne doivent pas mener à la désunion. Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les Américains.
Joe Biden, lors de son premier discours de président, Donald Trump, lui, était le grand absent hier au Capitole. L'ancien président s'était déjà envolé pour la Floride. En revanche, trois de ses prédécesseurs étaient bien présents hier à la cérémonie.
Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Et tous les trois se sont tenus aux côtés de Joe Biden, complices et unis. On vous retrouve en ligne de Washington, Sonia Dridi. Ce symbole après la présidence de Donald Trump, eh bien, ça marque déjà le début d'une nouvelle ère.
Oui, c'est une image rare et symbolique. Trois anciens présidents, tous de noir vêtus, réunis dans une vidéo pour appeler à l'unité. Le républicain George W. Bush s'est voulu rassurant alors que le pays est extrêmement divisé.
Je pense que le fait que nous soyons tous les trois ici présents pour parler d'un transfert pacifique du pouvoir prouve l'intégrité des institutions de notre pays.
Le démocrate Bill Clinton, qui a travaillé avec Joe Biden lorsque ce dernier était sénateur, a souligné le caractère exceptionnel de cette époque.
C'est une époque extraordinaire. Nous sommes à la fois en train de tenter un retour à la normale, de faire face à des défis complètement anormaux et faire ce que nous faisons le mieux, rendre notre union plus parfaite. C'est vraiment excitant.
L'ancien président Barack Obama, grand complice de Joe Biden, son ancien vice-président, qu'il appelle affectueusement Joe, a demandé aux Américains de travailler ensemble malgré les différences.
Ne parlons pas seulement avec ceux qui ont les mêmes opinions que nous, mais aussi avec les autres.
Le grand absent, c'était évidemment Donald Trump, qui a boudé la cérémonie d'investiture et n'a jamais appelé Joe Biden pour le féliciter. Mais selon le président américain, son prédécesseur lui a laissé une lettre très aimable à la Maison Blanche.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington. Une fois installée dans le bureau ovale, Joe Biden a tenu sa promesse et s'est tout de suite mise au travail avec la signature de 17 décrets. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, par exemple, ou encore la suspension de la construction du mur à la frontière avec le Mexique.
L'autre grand titre aujourd'hui, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron à l'université de Paris-Saclay, en région parisienne, avec deux sujets au menu.
D'abord, la situation des étudiants grandement précarisés et démoralisés à cause de la situation sanitaire. Le chef de l'État se rendra à leur chevet tout à l'heure pour échanger sur leurs difficultés. Difficultés que traverse Charlotte, étudiante en licence culture communication à Lille. L'isolement, les cours à distance, les reports d'examen, si à tout cela s'ajoutait un troisième confinement, elle ne le supporterait pas.
La première fois qu'on a été confinés, j'avais 17 ans. Je vais avoir 19 ans dans 2 mois. J'ai l'impression d'avoir perdu en fait quasiment 2 ans de ma vie. De perdre mes plus belles années aussi, parce qu'on en a toujours parlé. La vie étudiante, c'est les amis, c'est les amours, c'est les soirées. Et en fait, nous, c'est les larmes, le Xanax et les Zooms. Il y en a qui en viennent à lancer des messages dans le groupe de classe en disant ce soir, je me suicide. Ou alors, faut que quelqu'un me parle parce que là, ça va pas du tout. On en vient à se confier à des gens qu'on n'a jamais vus en vrai parce qu'en fait, on peut pas faire autrement. J'ai pas de vie sociale parce que on peut juste pas en avoir. Je peux plus travailler parce que je travaille dans l'animation pendant les vacances. Or, ça fait très longtemps que les colos, on les a arrêtés totalement. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie parce que je suis en licence culturelle et la culture, elle n'existe plus. En fait, on sait pas où on va, à part dans le mur. On sait pas où on va. C'est tout. Moi, je trouve ça quand même incroyable qu'aujourd'hui, on ait des étudiants qui soient dehors pour réclamer le droit d'étudier. Donc, je me sens pas du tout prête à un troisième confinement et on est beaucoup à pas être prêt pour un troisième confinement.
Voilà, témoignage recueilli par Lionel Gougelot.
Il y a un autre témoignage tout à l'heure avec mon invité à 6h40. L'autre grand thème du déplacement du chef de l'État sur le campus de Saclay tout à l'heure, c'est la recherche quantique.
L'université Paris-Saclay est l'un des plus grands centres de recherche du pays et Emmanuel Macron va y dévoiler la stratégie de la France pour développer au plus vite l'ordinateur quantique, l'ordinateur du futur. Et pour faire partie des leaders, Clément Le Saffre, le gouvernement n'hésite pas à sortir le chéquier.
Oui, l'Elysée vise la place de numéro 3 mondial de la recherche quantique derrière les États-Unis et la Chine. Pour ça, l'État va mettre 200 millions d'euros par an sur la table lors des 5 prochaines années, contre 60 millions aujourd'hui. Objectif, accélérer la conception de l'ordinateur quantique, qui représente aujourd'hui la nouvelle frontière technologique. Pour faire simple, c'est un ordinateur qui utilise les règles de la physique quantique pour faire ses calculs. Il va donc beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique et permet de réaliser des simulations à grande échelle, extrêmement précises. Les applications sont multiples, biologie moléculaire, fission nucléaire, analyse financière ou encore prévision météo. Sauf que les ordinateurs quantiques sont encore théoriques car leur fabrication est très complexe. Ils ne peuvent fonctionner que dans un environnement à température proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius. Pour concrétiser ce projet, l'Elysée mise donc sur une alliance entre l'État, la recherche et les entreprises. Les industriels, notamment Atos, Thales et Air Liquide, vont investir 550 millions d'euros. L'Union européenne, elle, ajoute 200 millions. Au total, c'est donc 1,8 milliard d'euros sur 5 ans qui est mobilisé pour que la France garde la main sur une technologie stratégique.
Les explications de Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Le Sénat se penche aujourd'hui sur une proposition de loi visant à mieux réprimer les viols et agressions sexuelles sur mineurs. Elle propose d'établir un seuil de non-consentement à 13 ans.
Un âge en dessous duquel un enfant ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec un adulte, avec l'objectif d'établir un interdit sociétal clair. Mais Marion Dubreuil, que dit aujourd'hui la loi française et comment est-ce qu'elle sanctionne les pédocriminels ?
Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction spécifique pour punir un viol sur un mineur. La minorité de la victime, c'est une circonstance aggravante qui permet de durcir les peines. Par exemple, un violeur encourt 10 ans de prison lorsque sa victime est majeure. C'est 20 ans, deux fois plus quand la victime a moins de 15 ans, qui est l'âge de la majorité sexuelle en France. La notion de consentement, dont on parle beaucoup ces derniers jours, elle n'existe pas en tant que telle dans le droit pénal français. Pour prouver un viol devant la justice, il faut pouvoir établir au moins un élément constitutif de l'infraction. Il y en a 4. Il s'agit de la contrainte, de la menace, de la violence et de la surprise. La contrainte, elle peut être physique, mais aussi morale. Et c'est une manière de prendre en compte la vulnérabilité des mineurs. Un écart d'âge significatif entre un enfant victime et son agresseur, ou bien la position d'autorité de l'agresseur, celle d'un professeur, par exemple. Enfin, l'inceste est une circonstance aggravante qui fait l'objet d'une peine complémentaire, comme le retrait de l'autorité parentale.
Marion Dubreuil.
Il est 6h09 sur Europe 1. Les 3 derniers membres du commando Erignac sortiront-ils un jour de prison ?
Yvan Colonna sera libérable à partir de cette année. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, enfermés depuis une vingtaine d'années, ont terminé leur période de sûreté et pourraient bénéficier d'une libération conditionnelle. Pour l'instant, ils demandent à être transférés dans la prison de Borgo, en Corse. Mais une nouvelle fois, l'État vient de dire non, pour des raisons de sécurité, Justin Morin.
La décision aurait dû revenir au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mais ayant été l'avocat d'un des membres du commando, c'est finalement Jean Castex qui a dû se pencher sur le dossier. Selon le Premier ministre, les conditions ne sont toujours pas réunies pour qu'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, incarcérés en région parisienne, soient transférés vers le centre pénitentiaire de Borgo en Corse. La sécurité y est jugée insuffisante pour ces deux prisonniers inscrits au fichier DPS, détenus particulièrement signalés. C'est ce qui les empêche aujourd'hui de bénéficier d'une liberté conditionnelle à laquelle ils peuvent pourtant prétendre depuis 4 ans. Une commission locale leur avait d'abord répondu favorablement, mais le Premier ministre n'a pas suivi cet avis. La preuve, 23 ans après les faits, d'une décision politique pour Éric Barcelloni, avocat de Pierre Alessandri.
C'est purement et simplement de la vengeance d'État. Quelle que soit l'évolution des condamnés, l'évolution du contexte, l'État jamais ne prendra une décision dans le sens des condamnés. Et il le fait sans aucun scrupule.
Yvan Colonna, lui, est toujours emprisonné à Arles. Sa peine de sûreté s'achève cette année. Quant aux 4 autres membres du commando, ils ont été libérés et se sont tous réinstallés en Corse.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Allez, on termine avec un livre. C'est une réédition plutôt inattendue. Fayard va sortir cette année une version française de Mein Kampf.
Une version française et commentée, car cette fois, le manifeste d'Adolf Hitler sera accompagné d'un appareil critique très développé. Nicolas Caro.
Mein Kampf, c'est le programme d'Hitler. Il l'écrit en prison en 1924 après son putsch raté. Il y déverse sa haine des Juifs et de ceux qu'il désigne comme les ennemis de l'Allemagne. Manifeste raciste, l'ouvrage n'est pas interdit en France, pas du tout, mais c'est un livre qui brûle les doigts, évidemment. Il est très difficile de le trouver dans une librairie. Inutile de le chercher à la 25e heure, par exemple, à Paris. Didier Rossillon, le libraire.
Si un client arrive et me demande Mein Kampf, je lui dis je ne l'ai pas en magasin et je lui dis de se le procurer auprès de l'éditeur, mais moi je ne le commande pas. Pour moi, ça n'a pas été un sujet depuis une éternité. Donc est-ce que ça va le devenir quand on va avoir la presse qui va arriver sur ces nouvelles publications Fayard? Peut-être. Pour l'instant, non.
Et oui, parce que Fayard ne publiera pas le livre tel quel. 1000 pages dont la moitié est en fait un appareil critique rédigé par des historiens. La version polonaise vient de sortir. Une autre édition critique a été publiée en 2016 en Allemagne. Le livre s'était vendu à 100 000 exemplaires.
Les précisions de Nicolas Caro, spécialiste littérature d'Europe.
Et juste après les sports, on aura quelques autres conseils de lecture, parce que c'est les nuits de la lecture qui commencent ce soir. Rien à voir avec cette édition de Mein Kampf. Le journal de Sophie et Chan, il est 6h11.